Charles Michel, bonjour.
Bonjour.
Pourquoi avoir choisi de commencer cette tournée ouest-africaine par l'étape sénégalaise?
C'était utile, je pense, à peine 20 jours après la prise de fonction du nouveau président et après l'installation de la nouvelle équipe gouvernementale, d'avoir une rencontre approfondie afin d'écouter attentivement les priorités du président, du nouveau gouvernement et voir de quelle manière nous pouvons donner des impulsions pour veiller à ce que ce partenariat soit fructueux.
Le Sénégal a annoncé son intention de sortir du franc CFA. Est-ce que ce désarrimage, du coup, à terme de l'euro suscite des inquiétudes auprès des investisseurs et des entreprises européennes?
Moi, je pense que ce débat-là est d'abord un débat pour ceux qui sont concernés par l'utilisation de cette monnaie. Moi, je ne vais pas parler à la place des chefs d'État africains concernés. La question, quand on regarde un objet monétaire, c'est de voir s'il est utile en termes de stabilité monétaire, en termes de favoriser ou pas la coopération commerciale, la coopération économique dans un ensemble régional. C'est ça les questions qui sont posées.
Mais qu'en pensent les entreprises européennes et les investisseurs potentiels?
Il n'y a pas de doute. Les investisseurs et les businessmen, ils espèrent de la stabilité en tout point, de la stabilité sur le plan juridique et naturellement la stabilité sur le plan monétaire.
Donc plutôt avec le franc CFA?
Je ne dis qu'ils veulent de la stabilité et c'est aux leaders africains de déterminer ce qu'ils souhaitent en termes de gestion monétaire.
Est-ce qu'il y a eu des engagements pris concrets sur le secteur de la pêche au Sénégal, qui est un secteur en difficulté avec de plus en plus le constat d'une raréfaction de la ressource?
Oui, nous avons convenu hier de donner vraiment instruction aux équipes diplomatiques de part et d'autre de travailler de manière transparente, de partager les informations et d'essayer d'établir d'abord un diagnostic partagé. Je pense que c'est un sujet où il y a de la frustration, certainement côté Sénégal, avec des reproches qui sont faits sur le plan européen. Il y a aussi sur le plan européen l'impression que ces reproches, en bonne partie, ne sont pas justes et pas fondés. Par exemple, c'est l'impression que ce seraient des bateaux européens qui seraient la raison de la raréfaction et du fait que les pêcheurs sénégalais doivent faire plus de kilomètres pour aller attraper moins de poissons que ça n'était le cas auparavant. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais je dis en tout cas que s'agissant des Européens, d'abord, on prélève bien moins que ce que les accords permettraient de prélever. Deux, ce que l'on prélève est très réduit par rapport aux prélèvements globaux dans la zone. Troisième élément, nos accords sont parfaitement transparents. Ce n'est pas toujours le cas avec d'autres partenaires où il y a plus de secrets, y compris les montants qui sont mobilisés pour rétribuer la partie sénégalaise, tout ça est public, et la partie européenne ne prélève que deux types de poissons, le thon et le merlu noir, qui ne sont pas nécessairement en concurrence avec les poissons prélevés par les pêcheurs sénégalais. Et il y a pour la partie européenne des obligations d'emploi du personnel sénégalais. Donc on comprend bien que la partie sénégalaise, et on s'en réjouit, veulent faire un audit, et nous sommes disponibles. De toute façon, cet accord vient échéance à la fin de l'année, donc nous avons le devoir de regarder, d'évaluer et de voir quelles sont les impulsions qui doivent être données pour l'avenir.
Sur les aspects plus sécuritaires, on le sait, les forces françaises présentes au Sénégal sont en train de réduire leur présence, idem en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'Union européenne prévoit de compenser cette présence? Et oui, comment, sur le point de vue logistique, renseignement?
Pour la sécurité, on voit bien qu'il faut un regard plus large et pas simplement lié au Sénégal. Il y a une situation régionale avec une pression terroriste qui a créé beaucoup d'instabilité dans des pays voisins avec des coups d'État. Et nous comprenons que les leaders africains souhaitent mettre à plat leur coopération régionale. Et nous devons prendre aussi en considération ce qui sera le résultat de cette mise à plat de la coopération régionale, y compris dans le domaine sécuritaire, dans le domaine de la stabilité. Mais il est certain, je le comprends bien, que le pilier de la coopération sécuritaire est un pilier qui est sensible, qui est délicat, puisqu'il touche aussi à l'émotion et à l'émotion de la souveraineté.
Pour parler de la Côte d'Ivoire, quelle aide l'Union européenne compte-t-elle apporter pour aider la Côte d'Ivoire à sécuriser sa frontière nord, sachant que c'est une frontière qui connaît d'importants afflux de réfugiés depuis l'année dernière?
Mais nous mesurons bien que l'ensemble des pays dans la région sont confrontés à un voisinage qui est confronté à une insécurité grave. Et c'est une menace pour les pays concernés, bien sûr, mais c'est aussi une menace pour les pays voisins. Ce sont des sujets que l'on va aborder, bien sûr, avec le président Ouattara en Côte d'Ivoire, avec le président du Bénin. Nous savons aussi que nous travaillons avec l'Union africaine et avec les capacités de l'Union africaine d'être le canal pour utiliser l'aide européenne en matière de financement de la paix, c'est-à-dire de financement des capacités dans le domaine militaire. Et ces discussions seront utiles pour mieux comprendre et mieux appréhender la manière dont les pays européens peuvent faire des choix judicieux.
Jean-Michel, merci.
Merci à vous.